Les ressources divines sont là, à notre portée. Les bénédictions célestes aussi. C'est le don de Dieu. Et c'est aussi notre responsabilité de nous en emparer, de les faire nôtres. Donne-nous, notre Dieu, nous t'en prions, tout particulièrement en ces instants, de désirer nous nourrir de cette manne céleste, de cette nourriture que toi tu donnes à tes enfants à travers ta parole. Nous nous remettons à tes soins, notre Dieu, pour ces moments. Nous nous remettons aussi à tes soins pour cela, pendant tous les jours qui sont devant nous. Nous nous remettons à toi, nous te bénissons, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen.
Ruth, chapitre 2. Et Naomi avait un ami de son mari, homme puissant et riche, de la famille d'Élimélec, et son nom était Boaz. Et Ruth la Moabite dit à Naomi, « Je te prie, j'irai au champ et je glanerai parmi les épis, à la suite de celui aux yeux duquel je trouverai grâce. » Et elle lui dit, « Va ma fille. » Et elle s'en alla et entra et glana dans un champ après les moissonneurs. Et il se rencontra fortuitement que c'était la portion de champ de Boaz qui était de la famille d'Élimélec. Et voici, Boaz vint de Bethléem et il dit aux moissonneurs, « L'Éternel soit avec vous. » Et ils lui dirent, « L'Éternel te bénisse. » Et Boaz dit à son serviteur qui était établi sur les moissonneurs, « À qui est cette jeune femme ?» Et le serviteur qui était établi sur les moissonneurs répondit et dit, « C'est la jeune Moabite qui est revenue avec Naomi des champs de Moab. » Et elle nous a dit, « Permettez que je glane et que je ramasse entre les gerbes, après les moissonneurs. » Et elle est venue et est demeurée depuis le matin jusqu'à 7 heures. Ce qu'elle a été assise dans la maison est peu de chose. Et Boaz dit à Ruth, « Tu entends, n'est-ce pas ma fille? Ne va pas glaner dans un autre champ, et ne t'en va pas non plus d'ici, mais tiens-toi ici auprès de mes jeunes filles. Aie les yeux sur le champ qu'on moissonne, et va après elle. N'ai-je pas commandé au jeune homme de ne pas te toucher? Et si tu as soif, tu iras au vase, et tu boiras de ce que puisent les jeunes hommes. » Et elle tomba sur sa face et se prosterna contre terre et lui dit, « Pourquoi ai-je trouvé grâce à tes yeux que tu me reconnaisses et je suis une étrangère ?» Et Boaz répondit et lui dit, « Tout ce que tu as fait pour ta belle-mère après la mort de ton mari m'a été rapporté. Et comment tu as quitté ton père et ta mère, et le pays de ta naissance, et tu es venu vers un peuple que tu ne connaissais pas auparavant. Que l'Éternel récompense ton œuvre, et que ton salaire soit entier de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu t'abriter. » Et elle dit, « Mon Seigneur, que je trouve grâce à tes yeux, car tu m'as consolé. Et tu as parlé au cœur de ta servante, et pourtant je ne suis pas comme une de tes servantes. » Et au temps du repas, Boaz lui dit, « Approche-toi ici, et mange du pain, et trempe ton morceau dans le vinaigre. » Et elle s'assit à côté des moissonneurs, et il lui tendit du grain rôti, et elle mangea, et fut rassasiée, et en laissa de reste. Et elle se leva pour glaner. Et Boaz commanda à ses jeunes hommes, disant, « Qu'elle glane même entre les gerbes, et ne lui en faites pas de reproche. Et vous tirez aussi pour elle quelques épis des poignets, et vous les laisserez, et elle les glanera, et vous ne l'en reprendrez pas. » Et elle glana dans le champ jusqu'au soir, et elle battit ce qu'elle avait glané, et lui environ un épha d'orge. Et elle le chargea sur elle et vint à la ville. Et sa belle-mère vit ce qu'elle avait glané. Et elle sortit ce qu'elle avait laissé de reste après avoir été rassasiée, et le lui donna. Et sa belle-mère lui dit, « Où as-tu glané aujourd'hui et où as-tu travaillé ? Béni soit celui qui t'a reconnu. » Et elle raconta à sa belle-mère chez qui elle avait travaillé et dit, « Le nom de l'homme chez qui j'ai travaillé aujourd'hui est Boaz. » Et Naomi dit à sa belle-fille, « Béni soit-il de l'Éternel, qui n'a pas discontinué sa bonté envers les vivants et envers les morts. » Et Naomi lui dit, « L'homme nous est proche parent, il est de ceux qui ont sur nous le droit de rachat. » Et Ruth la Moabite dit, « Même il m'a dit, tiens-toi près de mes jeunes hommes jusqu'à ce qu'ils aient achevé toute la moisson que j'ai. » Et Naomi dit à Ruth, sa belle-fille, « Il est bon, ma fille, que tu sortes avec ces jeunes filles et qu'on ne te rencontre pas dans un autre champ. » Et elle se tint auprès des jeunes filles de Boaz pour glaner jusqu'à ce que la moisson des orges et la moisson des froments fût achevée. Et elle habitait avec sa belle-mère.
La dernière fois, on a pu voir à la fin du premier chapitre de Ruth de la grâce qui ramène au lieu de la bénédiction Naomi, accompagnée de Ruth, attirée par ce peuple, prête à quitter sa famille, ses dieux, son pays, s'attachant à Naomi. Et au début du chapitre 2, nous est présentée la personne de Boaz, un homme puissant et riche, qui nous parle en figure de Christ, de celui qui a ce droit de rachat, comme nous le verrons. On a parlé des colonnes du portique de Salomon, dont l'une d'elles avait pour nom Boaz, en lui est la force. Et on voit au début du chapitre cette diligence de Ruth pour aller glaner, pour aller récolter de la nourriture, parce que Naomi et elle revenaient, n'avaient pas d'héritage, n'avaient pas semé, n'avaient pas de nourriture. Alors elle se saisit de cette opportunité d'aller glaner, mais elle le fait en humilité. Et elle fait part de son projet à Naomi dans une pleine soumission. Et on voit au verset 3 qu'elle se trouve fortuitement, nous dit la parole, c'est-à-dire qu'elle n'avait pas elle-même délibérément choisi ce champ. D'ailleurs, elle n'était pas, probablement pas au courant de ce lien de parenté avec Boaz. Mais c'est la providence divine qui permet qu'elle soit trouvée dans le champ de cet homme plein de grâce. Et on va voir dans ce chapitre la grâce qui se plaît à nourrir ceux qui viennent se placer sous sa protection. On voit que Boaz vient de Bethléem, là encore renforçant le type de Christ. Il s'approche de ses moissonneurs. Et on verra tout au long de ce chapitre l'ordre qui règne dans le domaine, dans la possession de Boaz, les heureux rapports qu'il peut avoir avec ceux qui travaillent pour lui, avec ceux qui sont établis sur les moissonneurs, ce serviteur que nous verrons au verset 6. On voit cette salutation au verset 4 de Boaz à ses moissonneurs. qui s'enquiert touchant le déroulement de cette moisson. Et on voit qu'il s'intéresse à cette pauvre Moabite qui pouvait paraître insignifiante. Il s'enquiert d'elle auprès de son serviteur qui avait cet œil affiné pour voir cette personne qui était venue en disant « Permettez que je l'âne ». Elle ne s'était pas saisie de ce droit qui était inscrit dans la loi pour le pauvre, pour l'étranger, de glaner les épis tombés et ce qui n'avait pas été moissonné au coin. Elle demande la permission. Elle réalise que si elle en a la capacité, c'est par pure grâce. Et on voit cette diligence à la fin du verset 7 pour recueillir ce qui est en son pouvoir, qu'elle a été assise peu de choses, peu de temps, pendant le temps de la moisson. Donc on voit ainsi dans ce début du chapitre le type de Christ qui est placé devant nos yeux, ce temps de bénédiction, de moisson, et cette porte de grâce qui est ouverte à Ruth, qui, bien qu'étrangère, va avoir part à cette bénédiction. On voit son humilité, sa dépendance, sa soumission, et on voit on commence à discerner la grâce qu'il y a en Boaz, cet intérêt pour les plus petits et la bénédiction qu'il y a à travailler pour lui dans sa maison où ses droits sont reconnus, où, comme on le verra par la suite, il préside à la table. C'est lui qui dispense la nourriture, la boisson pour l'entretien de ceux qui sont à son service.
La dernière fois, nous avions abordé le chapitre 2 du livre de Ruth sous un premier aspect, c'est-à-dire le secret de la croissance spirituelle. Comment faire des progrès spirituels? Le secret de la croissance dans la grâce. Et Ruth est présentée avec insistance comme une glaneuse. Elle désire glaner, elle désire se nourrir. Et nous voyons qu'elle prend seule l'initiative. Naomi ne la pousse pas. Et on voit toute l'énergie personnelle, l'énergie de la foi qu'elle engage et qui est nécessaire pour faire des progrès spirituels en ce qui nous concerne. Et pour faire des progrès spirituels, il faut se nourrir. Il faut se nourrir de la parole de Dieu. Et dans ce chapitre, on peut considérer quels sont les caractères qui sont nécessaires pour faire de chacun de nous quelqu'un qui glane dans la parole de Dieu. À travers l'exemple de Ruth, nous voyons que le premier caractère, c'est l'humilité. C'est la soumission. Et comme on vient de le dire, elle a pu dire « permettez, permettez ». Et elle agit d'une manière respectueuse. Elle demande, c'est-à-dire qu'elle n'est pas indépendante, et elle demande à plus expérimentée qu'elle et plus âgée ce que le désir de son cœur désirait, c'était se nourrir, se glaner. Et en cela, on voit qu'elle ne manifeste aucune volonté propre. Il ne s'agit pas d'une âme indomptée dont la volonté propre n'est pas brisée, mais au contraire, on voit une soumission aux moissonneurs, au chef des moissonneurs. Et c'est un des caractères essentiels quand nous lisons la parole de Dieu, c'est-à-dire la lire avec humilité, avec soumission à ce qu'elle nous dit. Le deuxième caractère de Ruth, c'est la diligence, c'est son zèle, son empressement. Et elle a de la constance. Dans tout le chapitre, on voit que depuis l'aube, tôt le matin, elle désire glaner. Et est-ce que nous étudions la parole de Dieu avec autant de zèle, avec application, autant d'application? Glaner épi après épi pour saisir toutes les richesses qui sont dans la parole de Dieu. Comme on l'a dit dans la prière tout à l'heure, nous sommes riches et bénis de toute bénédiction spirituelle en Christ, mais nous devons entrer par la foi dans toutes ces richesses qui sont à notre disposition. Et il nous faut cette énergie de la foi pour saisir l'immensité de ces richesses les unes après les autres qui sont en Christ. la question que nous pouvons nous poser, sommes-nous des médiocres glaneurs, négligents, ou bien sommes-nous des glaneurs énergiques? Est-ce que nous piétinons spirituellement? Est-ce que nous faisons des progrès spirituels jour après jour?
On voit le zèle hein, de Ruth, ce qu'elle a été le temps où elle a été assise, et peu de choses. L'essentiel, c'était de trouver cette nourriture hein, pour elle. Et c'est nous aussi, est-ce que cette nourriture de nos âmes est quelque chose qui compte, quelque chose d'essentiel? Elle reconnaît celui qui est son rédempteur. Hein, rédempteur, c'est celui qui rachète. Et on a là dans ce livre une très belle image de la façon dont le Seigneur s'est occupé de nous, alors que nous n'avions aucun droit. Nous étions incapables en nous-mêmes de nous approcher de Dieu. Eh bien, c'est lui qui s'est occupé de nous, qui s'occupe de nous. Et c'est vers lui que nous devons nous tourner.
On peut remarquer que il y a un contraste très fort entre glaner et moissonner. On a un champ mûr, les moissonneurs viennent, ils sont là pour prendre la récolte, hein, engranger la récolte, les épis. Et s'ils font leur travail soigneusement, au fond, il ne reste plus d'épis dans le champ. S'il y a quelque chose à glaner, c'est lié à la faiblesse de ceux qui moissonnent ou à leur négligence. Et la parole prévoyait cela en Deutéronome 24. Il nous est dit, quand tu feras ta moisson, verset 19, quand tu feras ta moisson dans ton champ, que tu auras oublié une gerbe dans ton champ. Tu ne retourneras pas pour la prendre, elle sera pour l'étranger, pour l'orphelin, pour la veuve, afin que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans toute l'œuvre de tes mains. Quand tu battras ton olivier, tu ne reviendras pas cueillir ce qui reste aux branches après toi. Ce sera pour l'étranger, pour l'orphelin et pour la veuve. Quand tu vendangeras ta vigne, tu ne grappiras pas après. Ce sera pour l'étranger, pour l'orphelin et la veuve. Et tu te souviendras que tu as été serviteur dans le pays d'Égypte. C'est pourquoi je te commande de faire cela. Quand tu auras oublié une gerbe dans ton champ, c'est un oubli, c'est pas une faute. C'est un oubli. Mais Dieu permet qu'il y ait de tels oublis. Nos limitations servent pour que d'autres, l'étranger, l'orphelin, la veuve, puissent avoir de quoi subsister. Quand tu battras ton olivier, donc pour cueillir les olives, on va pas les cueillir. On secoue l'arbre, on bat l'arbre, et puis tous les fruits ne tombent pas. Ben, ceux qui ne tombent pas, ils seront pour l'orphelin. Alors qu'est-ce que je veux dire par là? Glaner, c'est au fond pas une manière normale, si je peux dire, de récolter. C'est pas une manière normale, c'est pas la manière, si on peut dire, qui a le meilleur rendement pour récolter de la nourriture. Mais c'est la seule possibilité pour Ruth. Chercher la nourriture, aller ramasser dans le champ, moissonner ce qui est tombé et qui n'a pas été repris, c'est tombé, on l'a laissé par terre parce que c'est tombé, comme Dieu l'avait indiqué. et trouver sa nourriture dans ce qui reste de la moisson des autres. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de ça quand on parle de la nourriture spirituelle? On peut prendre deux exemples. Un premier exemple, c'est Moïse. Il nous est dit qu'il a été instruit dans toute la sagesse des Égyptiens. Si on peut dire, il a été à l'école. Il a appris, dans une formation structurée, organisée, toute une grande sagesse. On pourrait comparer ça à la moisson. Et à quoi ça lui a servi? On voit au début du livre de l'Exode, il avait à cœur son peuple, et voulant défendre son peuple, il a agi maladroitement, et il a dû s'enfuir. Et alors, il a dû continuer sa formation à une autre école, l'école du désert, gardant des troupeaux de Jéthro. Une école qui n'est pas structurée de la même manière. On n'a pas là les grands maîtres du moment. On n'a pas accès à toute la science qui existe. Non, on a ces 40 ans dans le désert, de vie rude et de vie seule, seule avec Dieu. Un autre exemple, l'apôtre Paul. Il peut dire en Actes 20 et 22, quand il s'adresse à la foule, verset 3, « Je suis juif, né à Tarse de Cilicie, mais élevé dans cette ville-ci et instruit au pied de Gamaliel selon l'exactitude de la loi de nos pères, étant zélé pour Dieu comme vous l'êtes tous aujourd'hui. » Et la suite, il nous dit quoi? Le résultat de cette école, le résultat de cette formation, et j'ai persécuté cette voie jusqu'à la mort, liant les hommes et les femmes, et les livrant pour être mis en prison, comme le souverain sacrificateur, même en étant en témoin. Voilà encore ce que a produit une école abondante, riche, une école des hommes, qu'on peut, au fond, mettre en parallèle de la moisson. Dans un sens, bien sûr, il ne faut pas résumer la moisson à cela. Et c'est surtout pour mettre en contraste avec cette nourriture, épi par épi, chercher un petit rappel très pratique au temps de Ruth et de Boaz, on ne moissonnait pas comme aujourd'hui. On allait dans le champ et on coupait les épis au haut de la tige et on laissait les tiges par terre. C'est pas des champs coupés au ras du sol, comme nous les connaissons. Dans un champ coupé au ras du sol, où les tiges avec les épis ont été enlevées, c'est relativement facile d'aller trouver des épis qui traînent. On les voit relativement bien, le sol est clair, surtout si c'est coupé très près du sol, les tiges. Là, s'il y a les tiges dressées de hauteur inégale, les moissonneurs ont passé, ont coupé les épis, ont laissé les tiges. Les épis perdus, les épis tombés, il faut les chercher entre les tiges. Il y a tout un travail à chercher cette nourriture, se l'approprier. Une nourriture qui est parcimonieuse, parce que les moissonneurs font quand même bien leur travail. On reconnaît bien dans le paragraphe des versets 4 à 7 qu'il y a une relation de confiance entre Boaz et ses moissonneurs. Et on voit bien que les instructions que donne Boaz montrent qu'il est respecté et il respecte ses employés. Il prend soin. Donc, on n'a pas de doute que ces moissonneurs faisaient bien leur travail. Donc voilà, Ruth cherchant cette nourriture pour Naomi, pour elle-même, avec tout ce travail pour trouver ces épis. Pliés en deux pour les ramasser, les chercher par terre. Une position rude aussi. Se nourrir, chercher la nourriture, c'est pas quelque chose qui vient tout seul. C'est pas dans les écoles des hommes qu'on apprend la nourriture spirituelle. C'est dans un chemin rude où il faut se baisser, où il faut chercher, où il faut persévérer, épi par épi, ramasser tout ça.
On peut aborder aussi ce chapitre 2 par un autre sujet. C'est-à-dire les voies de grâce de Dieu envers une étrangère, envers une Moabite. Et dans ce chapitre 2, nous voyons que Ruth est attirée par la providence divine là où les serviteurs de Boaz travaillent. Si nous comparons aujourd'hui, quant aux voies de Dieu en grâce vis-à-vis du monde entier, eh bien, nous pouvons faire une comparaison. Les âmes sont attirées là où les serviteurs de Christ travaillent. On a comparé les évangélistes à des moissonneurs qui travaillent dans le champ du maître. Et nous voyons que la providence divine amène Ruth là où les serviteurs de Boaz travaillent. Et le chef des moissonneurs, qui est une image du Saint-Esprit, eh bien, sait d'où vient Ruth, sait très bien d'où viennent les pêcheurs perdus. Et qu'est-ce que fait le chef des moissonneurs? Qu'est-ce que fait le Saint-Esprit? Eh bien, il amène à la rencontre avec le divin Boaz, avec Christ. Et nous voyons donc cette première rencontre de Ruth avec Boaz. Et si nous nous souvenons notre propre histoire, eh bien un jour, nous avons été amenés par le Saint-Esprit à rencontrer le Seigneur Jésus, à rencontrer Christ. Et qu'est-ce qui se passe au moment de la rencontre de Boaz avec Ruth? Eh bien, ce qui est tout à fait remarquable, c'est que le cœur de Ruth est touché par la grâce qui vient de Boaz, par sa bonté, par sa bienveillance. Nous nous souvenons, dans l'évangile de Jean, au premier chapitre, il nous est dit que la grâce et la vérité vinrent par Jésus-Christ. On peut lire, si vous voulez bien. Chapitre 1er, verset 17, « La grâce et la vérité vinrent par Jésus-Christ. » Qu'est-ce que c'est qui touche le cœur du pécheur en premier? Qu'est-ce que c'est qui change l'esprit du pécheur que nous étions? Est-ce la vérité? Non. C'est la grâce de Dieu. La grâce de Dieu touche notre cœur et elle vient toujours en premier lieu. C'est elle qui va produire la repentance et c'est essentiel que le cœur du pécheur soit touché par la grâce qui vient de Dieu. Et nous voyons que le cœur de Ruth est touché et elle va prendre confiance. Et c'est une belle image de celui qui ne veut pas briser le roseau froissé, comme il nous est dit dans Ésaïe. On peut, si nous lisons attentivement le livre de Ruth, nous voyons dans ce chapitre en particulier que Ruth était craintive et qu'elle était dans une situation de désolation. Avec Naomi, sa belle-mère, c'était deux pauvres veuves qui n'avaient pas de moyens de subsistance. Et elle se retrouve dans ce champ de Boaz et elle va rencontrer la grâce. Elle va rencontrer la bonté. Elle va rencontrer la bienveillance à son égard. Et c'est cet accueil parfait qui va toucher son âme et qui va ensuite lui permettre de s'attacher à la personne de Boaz. Alors nous voyons au verset 8 que Boaz va lui parler. Tu entends, n'est-ce pas, ma fille, ne va pas glaner dans un autre champ, ne t'en va pas non plus d'ici, mais tiens-toi ici auprès de mes jeunes filles. Le bon berger, plein de grâce et de bienveillance pour le pécheur, désire que le pécheur reste près de lui. Nous avons une belle expression dans le premier livre de Samuel, au chapitre 22. À la fin, verset 23, demeure avec moi, ne crains point. Et à la fin du verset, et près de moi, tu seras bien gardé. Voilà ce que dit Boaz à Ruth. Ne crains pas, reste près de moi, reste où je suis, ne va pas ailleurs. Tu peux glaner dans mon champ, mais ne t'en va pas dans un autre champ. Nous voyons que le cœur plein de grâce de Boaz à l'égard de Ruth. Ruth se trouve dans le lieu où Boaz se trouve. En dehors, Boaz ne s'y trouve pas. Et en ce qui nous concerne, il faut rechercher où le divin Boaz se trouve et ne pas chercher les lieux où il ne se trouve pas. Est-ce que nous avons à cœur la présence du Seigneur, être dans un champ qui lui appartient et surtout où il est chez lui? Ne va pas glaner dans un autre champ. Au fond, Christ ne veut pas que nous allions loin de lui et il désire que nous soyons dans sa présence, dans le lieu de la bénédiction. Savons que l'ennemi cherche toujours à nous éloigner des champs de la grâce, du lieu de la bénédiction. Il suggère sans doute qu'il y a d'autres moyens pour être heureux et ailleurs. Et il peut offrir beaucoup de substituts, nous faire croire que nous serons plus heureux ailleurs. Mais c'est dans le lieu où Christ se trouve, dans sa présence, dans le lieu où il habite, c'est dans la maison de Dieu que la bénédiction est sûre et réelle.
Nous voyons la foi de Ruth. Elle est venue dans ce champ pour glaner les épis et elle est venue chercher la grâce, verset 2. Elle a rencontré les jeunes filles. Elle a rencontré les jeunes hommes, les serviteurs, les moissonneurs, et a rencontré Boaz lui-même. Elle cherchait la grâce de Dieu. Et en rencontrant Boaz, qui lui parlait tendrement, il ne rejetait pas, au contraire, il l'encourageait. Nous voyons dans ces versets, il l'encourageait. Et il la consolait et parlait à son cœur. Elle lui dit, alors pourquoi ai-je trouvé grâce à tes yeux? Ce verset 10 et le verset 13, que je trouve grâce à tes yeux. Donc elle cherchait la grâce. Mais quand Ruth rencontra Boaz, Boaz qui dit à ses serviteurs, à qui est cette jeune fille? Il ne dit pas qui est cette jeune fille, mais à qui elle est cette jeune fille. Bon voilà, comparé avec Paul, parce que le navire, en acte 27, il y avait cette tempête, il y avait les soldats qui étaient là, les mariniers, ils avaient peur, Et que dit Paul au chapitre 27, verset 23 ? Dieu à qui je suis. Il ne dit pas qu'il est. Dieu à qui je suis et que je sers. Alors Boaz dit, à qui est cette jeune fille ? Et lui a répondu les moissonneurs, les serviteurs lui ont répondu qui elle était, cette servante, cette étrangère venue de Moab, qui a suivi ainsi Naomi, et est venue dans ce champ où elle glanait, où elle travaillait. Psaume Proverbe 31-13, elle travaillait avec joie. Elle travaillait avec joie. C'était la foi qui opérait en elle. Elle était réjouie. Et comme 1 Timothée 6, 8, je crois, dit aussi qu'elle travaillait et elle était satisfaite. Elle était heureuse dans ce champ, bien faible qu'elle était, mais elle était encouragée et consolée par Boaz lui-même, bien sûr, qui est un type de Christ.
On peut noter que, dans un sens, je ne sais pas comment c'est dans l'original, mais le mot grâce qu'on trouve dans ce chapitre, il change au fond de sens pour Ruth au fur et à mesure que les circonstances avancent. Quant au verset 2, elle parle d'aller glaner, à la suite de celui aux yeux duquel je trouverai grâce, elle attend juste une tolérance, qu'on la tolère dans ce champ où elle pourra glaner. Elle attend rien de plus. Et puis quand Boaz lui parle et qu'elle lui répond, verset 10, « Pourquoi ai-je trouvé grâce à tes yeux que tu me reconnaisses et je suis une étrangère ?» Elle découvre quelqu'un qui non seulement la tolère dans son champ, mais l'invite à continuer à glaner chez lui, l'invite à rester chez lui dans ses champs. La fin du chapitre, le dernier verset, elle se tint auprès des jeunes filles de Boaz pour glaner jusqu'à ce que la moisson des orges et la moisson des froments fût achevée. Elle va passer l'ensemble du temps de la moisson, des différents céréales, dans les champs de Boaz. C'est pas quelque chose qu'elle imaginait, qu'elle attendait. Pourquoi ai-je trouvé grâce ? Pourquoi ai-je trouvé beaucoup plus encore que ce que j'imaginais ? Que tu me reconnaisses, que tu me prennes comme quelqu'un qui a une place, qui a... C'est comme si elle disait que tu me donnes des droits. Je n'ai aucun droit. Je suis étrangère. Et après, plus loin, quand elle dira, verset 13, « Mon Seigneur, que je trouve grâce à tes yeux, car tu m'as consolé, tu as parlé au cœur de ta servante, et pourtant je ne suis pas comme une de tes servantes. Je suis toujours une étrangère. Mais tu m'as tant donné. C'est que je trouve grâce, est-ce une demande ou est-ce un remerciement. Je pense qu'on peut prendre la réponse de Ruth là dans les deux sens. Il y a des paroles qui l'ont consolé, qui ont parlé à son cœur, qui ont un cœur, si on reprend ce que Boaz lui répond au verset 11, « Tout ce que tu as fait pour ta belle-mère après la mort de ton mari m'a été rapporté. Et comment tu as quitté ton père et ta mère et le pays de ta naissance ?» Et tu es venu vers un peuple que tu ne connaissais pas auparavant. Ruth a été reconnue en tout ce qu'elle a fait. Et estimée, appréciée en tout ce qu'elle a fait. Et on peut relever encore juste le verset 12. Que l'Éternel récompense ton œuvre et que ton salaire soit entier de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu t'abriter. Elle avait bien dit à Naomi, « Ton Dieu sera mon Dieu. » Mais avait-elle conscience de l'ampleur de la réponse que l'Éternel pourrait lui donner ? Boaz la rend en quelque sorte attentive à cela. L'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu t'abriter. Elle va elle-même réutiliser cette expression quand elle parlera, quand elle est au chapitre 3. Verset 9, elle répond à Boaz, on y reviendra quand on y sera, elle dit « Je suis Ruth, ta servante, étends ton aile sur ta servante, car tu as le droit de rachat. » Cette image d'étendre son aile, couvrir comme la poule qui prend ses poussins sous ses ailes pour les protéger du rapace qui guette, voilà. Et c'est bien de cela que Ruth avait besoin. Et elle sent cela dans les réponses de Boaz, qui parle pour l'Éternel, qui demande que l'Éternel récompense ton œuvre, que l'Éternel prenne soin. C'est ce que Boaz, là on parle de Boaz, l'homme Boaz, pas du type du Seigneur, mais l'homme Boaz souhaite pour Ruth. Et à chaque pas, c'est une découverte d'un peu plus de quelque chose de ce qu'est la grâce. Notre chemin n'est-il pas comme ça ? Pas après pas, quand nous avançons avec le Seigneur, nous découvrons à toutes sortes d'occasions quelque chose de plus, une facette de plus de cette grâce du Seigneur à notre égard.
On a comparé aussi ces versets-là dont nous entretenons à la conversion d'une âme qui se tourne vers Dieu. La rencontre de Boaz avec Ruth, on peut entendre la voix du bon berger qui veut garder sa brebis près de lui et qui ne veut pas qu'elle s'éloigne. Le divin berger donne de l'eau, de la vie en abondance à l'âme qui a soif. Et si tu as soif, tu iras au vase et tu boiras de ce que puisent les jeunes hommes. Le divin berger donne l'eau de la vie. L'eau de la vie en abondance à l'âme qui a soif. Et cette âme n'aura plus soif à jamais. Nous voyons aussi que Ruth tombe la face contre terre. On a pu dire que cela représente la repentance auprès du Seigneur, réalisant qu'elle n'est qu'une étrangère. Au verset 11, il est dit même « Tout ce que tu as fait pour ta belle-mère après la mort de ton mari m'a été rapporté. » Nous voyons que au moment de la conversion, quand nous nous trouvons devant le Seigneur à ses pieds, eh bien le Seigneur peut nous dire « Je sais tout ce que tu as fait, je sais tout ce que tu es. » Et nous pouvons tomber la face contre terre comme Ruth en reconnaissant cela. Et on a pu dire aussi qu'elle réalise ainsi un jugement complet en présence de la grâce de Dieu, je suis une étrangère. Et après, elle peut se relever et goûter auprès de Boaz la consolation, le réconfort de son âme. Verset 13, et elle dit, « Mon Seigneur, que je trouve grâce à tes yeux, car tu m'as consolé et tu as parlé au cœur de ta servante, et pourtant je ne suis pas comme une de tes servantes. » Nous voyons le travail progressif qui s'opère dans une âme par le moyen du Saint-Esprit. Et ensuite, nous voyons que Ruth peut goûter la joie de la communion avec son Seigneur à sa table. Et à cette table, son âme peut être remplie de lui-même et être rassasiée par tout ce qu'il lui donne, le grain rôti, en particulier qui nous parle de la mort et des souffrances de Christ. Le vinaigre aussi, qui nous parle de la croix, de son œuvre à la croix, de l'amertume qu'il a pu goûter. Et ensuite, nous voyons que l'âme peut se nourrir quotidiennement par le moyen de la parole de Dieu, qui est bien sûr symbolisée, comme nous l'avons dit, par le glanage dans les champs. La rencontre donc de Boaz avec Ruth, la rencontre de Christ avec un pécheur repentant, le divin berger qui donne l'eau de la vie en abondance à l'âme qui a soif et qui n'a plus soif à jamais, la repentance auprès du maître quand Ruth tombe à ses pieds en réalisant le jugement complet de soi-même, réalisant que nous sommes des pécheurs perdus. Et là, nous voyons que le bon berger nous tend la main pour nous relever, et il désire que nous goûtions sa communion à sa table. Il désire nous nourrir, que nos âmes soient remplies de lui-même et remplies de tout ce qu'il nous donne. Juste encore un mot sur sur le verset 8, ne va pas glaner dans un autre champ et ne t'en va pas non plus d'ici, mais tiens-toi ici auprès de mes jeunes filles. C'est-à-dire que Boaz précise à Ruth la compagnie de qui elle devrait rechercher, qu'elle doit rechercher. Quelles sont nos compagnies? Il y a un verset dans le psaume 119 qui peut nous arrêter, psaume 119, verset 63. Je suis le compagnon de tous ceux qui te craignent. Je suis le compagnon de tous ceux qui te craignent. Quelles sont nos compagnies? Encore sur le verset 11, tout ce que tu as fait m'a été rapporté. Boaz dit, voilà, tout ce que tu as fait m'a été rapporté en bien. Dans Luc 12, dont nous nous sommes entretenus récemment, il nous est dit au verset 2, il n'y a rien de couvert qui ne sera révélé, ni rien de secret qui ne sera connu. C'est pourquoi toutes les choses que vous avez dites dans les ténèbres seront entendues dans la lumière. Et ce dont vous avez parlé à l'oreille, dans les chambres, sera publié sur les toits. Rien de couvert qui ne sera révélé, ni rien de secret qui ne sera connu. Boaz peut dire qu'il savait tout ce qui concernait Ruth. Eh bien, le Seigneur, il connaît tout ce qui nous concerne aujourd'hui. Il n'y a rien de secret. Tout est connu, et là, ce sont des versets qui sont impressionnants. Il n'y a rien de couvert qui ne sera révélé, ni rien de secret qui ne sera connu. Faisons bien sûr attention à tout ce que nous disons dans le secret.
Il a été fait mention par Jacques tout à l'heure de l'attente de Ruth par rapport au mot grâce qui au fur et à mesure de la lecture ou du chemin qu'elle traverse, ses attentes évoluent. Et dans les versets qu'on a lus aussi, là, entre le verset 8 et le verset 16, on voit aussi Boaz qui fait apparaître la grâce de façon toujours plus abondante. Au début, Ruth a été venue glaner. Et très rapidement, au verset 10, comme il a été juste avant, les personnes qui glanent, c'était les étrangers, c'était les veuves, les orphelins, c'est-à-dire les gens qui n'avaient pas de droits, qui n'avaient pas de ressources, les gens qui n'avaient rien. C'est vraiment les gens, les tout petits. Et très tôt, là, Boaz dit à Ruth, « Et si tu as soif, tu iras au vase et tu boiras de ce que puisent les jeunes hommes. » C'est-à-dire que les serviteurs de Boaz deviennent des serviteurs pour Ruth. Très tôt, on voit les choses qui augmentent. Et un petit peu plus loin, Ruth est invitée à partager le repas avec Boaz. Boaz l'invite à son repas. C'est quelqu'un de rien. Tout de suite, très vite, on passe un échelon en plus et elle est invitée à la table de Boaz. Elle n'est pas là pour manger les miettes, elle partage le repas avec Boaz. Et on lui en donne deux trous. Et à la fin, Boaz, il donne des consignes très claires. Glaner, c'était ramasser entre les épices qui étaient tombées des mains des moissonneurs. Et là, il y a deux phrases qui sont assez fortes, hein, au verset 15. Et Boaz commanda à ces jeunes hommes disant qu'elle glane même entre les gerbes. Quand on moissonnait, à cette époque-là, on coupait, on regroupait les gerbes, les tiges entre elles, on en faisait des gerbes et on les amassait avant de les battre. Et souvent, quand on les transportait, il y en avait quelques-uns qui tombaient. Donc, c'est-à-dire, autour de ces gerbes-là, il y avait beaucoup de choses qui étaient tombées. Et si le travail était beaucoup moins dur, c'est beaucoup moins dur de glaner. Et on lui dit, va ramasser ces choses qui sont tombées là aussi. Et on va encore plus loin. Boaz, il va encore plus loin. Ils lui disent, mais tirez-en même et donnez-lui directement. On voit les grâces aussi, qui, à travers ce type aussi du Seigneur, là, les grâces toujours plus abondantes pour nous qui viennent du Seigneur. Et on voit vraiment cette progression dans ces quelques versets.
Boaz dit à Ruth, donc, l'avoir rappelé, qu'elle m'a parlé dans un autre champ. Plus loin, il lui dit, approche-toi de moi. Et elle s'approcha de Boaz. Et nous voyons là, ici aussi, la communion. Elle glanait dans le champ, elle mangeait, elle buvait, et elle était en communion avec Boaz. Et aujourd'hui, dans ces temps difficiles que nous traversons, pour voir en Apocalypse 3, verset 20, le Seigneur frappe à la porte de celui qui ouvre, et il entrera, et je souperai avec lui et lui avec moi. Voilà la communion avec le Seigneur. Voyons bien là, Ruth, qui était là, au champ de Boaz, elle se nourrissait, le chant de la parole de Dieu, et nous aussi, nous avons à nous nourrir constamment de la parole de Dieu, et quand nous lisons, quand nous la recevons, quand nous vivons cette parole, alors nous avons communion avec le Seigneur. Que cela aussi réjouisse nos cœurs, que Dieu nous a laissé sa parole pour nous conduire au milieu de ce monde, et d'attendre ce moment où alors serons avec lui dans la gloire, alors nous aurons lui et la parole de Dieu.
Au verset 11, tout ce que tu as fait pour ta belle-mère après la mort de ton mari m'a été rapporté. Et comment tu as quitté ton père et ta mère et le pays de ta naissance et tu es venu vers un peuple que tu ne connaissais pas auparavant. Ces paroles dans la bouche de Boaz nous font penser à l'appel d'Abraham en Genèse 12. Genèse 12, verset 1, l'Éternel avait dit « Va-t'en de ton pays et de ta parenté et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. » Et en Hébreu 11, il nous est dit que Abraham, par obéissance, est parti, ne sachant où il allait. Là, on voit que l'Esprit, dans la bouche de Boaz, nous montre comment il relève ce chemin de foi de Ruth, qui a tout quitté, sans savoir où elle allait. Elle est allée vers un peuple qu'elle ne connaissait pas. Et là, elle a devant ses yeux non plus un peuple, des bénédictions, des grâces, mais une personne, la personne de Boaz. Elle a quitté ce monde dont Moab est le type, dont on peut voir en Ésaïe les caractères, en Ésaïe 16, verset 6. Nous avons entendu l'orgueil de Moab, le très hautain, sa fierté et son orgueil et sa rage. Ses ventries ne sont que vanité. Donc on voit qu'elle a quitté ce monde qui était caractérisé par l'indépendance, par l'orgueil. Et elle est venue dans cette humilité d'une étrangère vers le lieu de la bénédiction. Et on va le voir par la suite qu'elle va être associée à cette personne aux yeux desquels elle a trouvé grâce. On a relevé la question qui avait été posée par Boaz à son serviteur, qui est « à qui est cette jeune femme ?» et non pas seulement « qui est cette jeune femme ?» Et la réponse du serviteur était encore « c'est une jeune Moabite ». Et on voit que Boaz l'introduit progressivement dans cette sphère de grâce. Verset 8, il dit « ma fille ». Et verset 12, « que ton salaire soit entier de la part de l'Éternel, du Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu t'abriter ». Celle qui n'avait pas de part dans le peuple d'Israël, car même la dixième génération des Moabites ne pouvait pas entrer dans sa congrégation, trouve grâce et secours et protection sous les ailes du Dieu d'Israël. Et on voit qu'elle va progressivement passer de l'appartenance au monde à l'appartenance à ce divin Boaz qui en figure pour nous est une image de Christ.
Cantique 69. Seigneur Jésus, nous sommes des objets de ta grâce. Aussi, comme Ruth, qui était une étrangère, qui n'avait aucun droit, et qui est entrée dans la... qui est dans l'ascendance du Seigneur. Désirons encore que tu nous donnes de percevoir à travers tous les exemples de ta parole la façon dont tu t'occupes de nous, de chacun de nous. Donne-nous aussi de t'honorer dans notre conduite en montrant ce que tu es, toi, en montrant que tu désires aussi t'approcher de chacun. Nous soyons ainsi dans chaque jour, et en particulier dans la semaine qui s'est ouverte, nous soyons fidèles et obéissants. Nous remettons à toi, nous te bénissons et par toi nous bénissons Dieu notre Père. Amen.
Amen.